Bonjour et bienvenue à Regards croisés avec Fulgence Blas
et Arlette Farah.
Ah oui, c'est parti pour la deuxième journée de la semaine. Aujourd'hui, bon ben, est-ce qu'on a une invitée en deuxième demi-heure?
Oui, voilà. On a une invitée.
Tu vois, je ne me trompe plus, je ne dis pas deuxième heure, hein, je dis deuxième demi-heure.
Bravo Fulgence, bravo.
C'est parti là. Donc, alors, ça va parler de quoi?
On va recevoir Marika Bédrapeau qui est libraire à la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Et on va parler du prix, du fameux prix des libraires du Québec. Version côté jeunesse.
Côté jeunesse. On est tous, on est passé par là.
J'y suis encore, moi, mentalement. Hein.
Alors moi, je veux parler un peu de quelque chose de, qui concerne tout le monde d'ailleurs, les cyberattaques. Il y a un mort après une cyberattaque dans un hôpital en Allemagne. Oui, d'accord. Et puis bon, la peur du coronavirus, un filon rentable pour les hackers. Et puis on va parler aussi du, je vais parler aussi du Sahel, un bilan décevant pour la Grande Muraille Verte. On part tout de suite en musique.
Avec
Raja Rabin Unity.
I woke up this morning, yeah. Oh, the same sounds I heard from yesterday. It beats me why I can't understand it, no. Why we won't learn from our mistakes. Sitting in the top of my room and thinking why we won't get it together just this time. Well,
I'm all for us to give it a try.
Roger Rabin, Unity, parle d'unité. Hein, voilà, pour ceux qui ont compris les paroles, ça ne parle que de ça. Voilà.
J'ai pas compris les paroles, mais par contre, j'ai dansé sur la musique.
Oui, je t'ai vu. je voulais pas répéter que bon, vous ne voyez pas Arlette, mais elle est en mouvement.
J'ai aimé ça.
Voilà. Ok, je vais parler de cette nouvelle triste. Un mois après une cyberattaque contre un hôpital en Allemagne, c'est passé il y a quelques jours. C'est une patiente qui est morte après la cyberattaque de l'hôpital universitaire de Düsseldorf dans le nord de l'Allemagne, bien sûr. Donc les hackers se seraient attaqués par erreur à la structure de soins au système informatique de l'hôpital.
Ils se sont attaqués par erreur ?
Ah oui, ils voulaient attaquer une autre compagnie, un autre domaine, oui. Oui. Et puis ils se sont trompés d'adresse IP. Adresse IP, c'est l'adresse d'identification de chaque ordinateur sur les réseaux. Donc c'est la première fois que le piratage d'un site médical se traduit par la survenue d'un décès. Ouais, malheureusement pour cette dame. Et puis,
quelle horreur.
Ouais. Et les Allemands, les autorités allemandes ont ouvert une enquête pour homicide involontaire. Si l'enquête aboutit à des poursuites, bien sûr, il s'agirait du premier cas confirmé dans lequel une personne serait décédée. Voilà, suite à une cyberattaque. Donc l'activité de l'hôpital universitaire du Düsseldorf a été fortement perturbée dans la nuit du 11 septembre au 12, bien sûr. Son système informatique a été visé. C'était très lent, le logiciel complémentaire très répandu qui ciblait, selon les informations obtenues, le système informatique s'est peu à peu effondré et l'hôpital avec ses ordinateurs au point mort, complètement au point mort.
D'accord.
Tout est informatisé dans les hôpitaux maintenant, c'est ça le problème. Hein. N'en a plus eu accès aux données de ses patients. Les médecins ne pouvaient plus avoir accès aux données des patients. Une situation catastrophique pour les malades, bien sûr. Et puis, certaines opérations ont pu être reportées, mais les patients en urgence vitale ont dû être transférés ailleurs.
Dans un autre hôpital.
Dans un autre hôpital. Donc, suite au transfert de cette dame, elle est morte en cours de route parce qu'on devait la transférer quelque part dans un autre hôpital qui n'était pas sous la pulsion des hackers. Voilà. Donc, un rapport du ministre de la Justice de l'État indique quand tous les 30 serveurs d'hôpital avaient été cryptés, mais plus déroutant encore, une note de rançon avait été laissée sur l'un des serveurs, pas les hackers. Alors, je continue, je reste dans le même chapitre. La peur du coronavirus, un filon rentable pour les hackers. Donc, selon plusieurs agences de cybersécurité internationale, les pirates informatiques profitent de l'anxiété des internautes à propos de l'épidémie pour pousser ceux-ci à cliquer sur des liens et télécharger des pièces jointes. Il faut faire très attention.
D'accord.
Voilà, donc les agences américaines et britanniques de sécurité informatique ont prévenu que les hackers et autres criminels informatiques profitaient de cette épidémie là de coronavirus pour accroître leurs opérations. Bien que le volume global des activités malveillantes n'ont pas vraiment voir évoluer, mais le Centre national britannique de cybersécurité, dans une note conjointe, les pirates informatiques profitent de l'anxiété. Ceci, si tu... Quand on reçoit souvent les courriels, surtout les courriels des gens qu'on ne connaît pas, les trucs, n'allez pas télécharger les pièces jointes et cliquer sur les liens. Les acteurs malveillants utilisent ces temps difficiles pour exploiter, profiter du public et des entreprises. Ce n'est pas seulement les entreprises, mais aussi les personnes privées. C'est-à-dire, toi et moi, tout le monde est concerné. Donc,
C'est-à-dire qu'on sait quand même depuis longtemps que...
Oui.
Hormis le coronavirus, je veux dire, on sait quand même depuis longtemps que si jamais on nous pose des questions qui s'approchent un petit peu trop de notre portefeuille ou des renseignements qui sont personnels, on ne doit pas le faire. Ça a déjà été dit et redit très souvent.
Oui, mais il y a toujours des gens qui vont tomber dans
c'est
les pièges.
C'est vrai, voilà. Certes. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la prévention a été faite aussi, elle ne date pas d'aujourd'hui.
Et... Oui, oui. Donc, les deux agences ont averti que les pirates informatiques exploitaient ainsi cette demande croissante de solutions de télétravail. C'est ça. Pour distribuer les outils malveillants en les dérivant comme des logiciels produits en collaboration avec Zoom et Microsoft. C'est ça le danger.
Donc
ils ciblent aussi les VPN, c'est ce qui permet aux gens de travailler de chez eux, de se connecter sur les données de leurs entreprises à partir de la maison, qui permettent à des salariés d'être reliés au réseau de leur entreprise. Voilà, donc il y a un groupe de défense sur la base du volontariat. Par exemple, un groupe de 360 volontaires disposant d'une expertise dans la sécurité informatique qui vient d'être constitué dans le but de lutter contre le piratage lié à la pandémie, dénommé COVID-19, 19 City, CTI, COVID-19 CTI, c'est le Cyber Threat Intelligence League, et qui renseignement sur les menaces informatiques, le groupe réunit des ressortissants de plus d'une quarantaine de pays volontaires, des spécialistes en sécurité, pour permettre à ces gens de lutter contre les hackers. Mais il faut dire une chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est pas parce qu'on est spécialiste en sécurité qu'on peut lutter contre les hackers. Pour lutter contre les hackers, il faut être soi-même un hacker, un ancien hacker. Voilà. Parce que là, vous parlez le même langage. Oui. 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 Sinon, c'est des gens qui peuvent toujours attaquer sans aucune trace. C'est ça. Et ils sont très demandés maintenant, les hackers. Il y a des écoles de formation, des centres de formation des hackers maintenant.
Ah bon?
Oui, à l'époque.
Je savais pas ça.
À l'époque, ça a commencé même en Russie. Je me rappelle, j'avais acheté un livre qui s'appelait le Black Book. J'ai lu quelques pages, j'ai fermé, j'ai dit non, c'est pas ce que je voulais faire en informatique. Et puis je l'ai plus lu. Je l'ai encore ce livre d'ailleurs. Et ça a commencé là, maintenant un peu partout, il y a des centres de formation de hackers. Ouais. Des gens. Et parce que toutes les grandes entreprises, au début c'était des bad boys, mais maintenant ce sont des gens qui sont recherchés et ils ont de ces salaires faramineux. Toutes les entreprises cherchent dans le département de sécurité des hackers. Qu'on appelle les good boys, ceux-là.
On prend pour se protéger, pour éviter qu'eux-mêmes soient hackés dans ce qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de faire. Ça, je le conçois.
C'est ça, c'est. Avant, ils étaient vus comme des bad boys, comme des mauvais garçons. Maintenant, c'est rentable. Toutes les grandes entreprises ont besoin d'eux. Donc, il y a des gens qui donnent des formations pour ça.
Oui.
Officiellement. Ouais, des compagnies comme Microsoft, Amazon, tout ça, ça recrute. Hein. C'est parce que c'est ceux-là qui sont toujours attaqués.
Après, dans le profit de l'être humain en tant que tel, une personne lambda, on va dire, qui se fait hacker pour pas grand chose. Va chercher les millions où ils sont et essaye.
Donc, l'action de ces bénévoles là, de ces gens volontaires là, ça consiste à protéger les ressources médicales et à lutter contre les tentatives de phishing, parce que. On reçoit souvent des courriels.
Le médical, c'est le plus important.
Voilà,
enfin, c'est un des plus importants.
Un des plus importants, d'ailleurs. Mm-hmm. D'accord. Ouais, donc, faites très attention, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent encore de la maison. Ne vous laissez pas berner par... C'est des bad boys, c'est comme ça on les appelle dans le milieu informatique, les mauvais garçons. Parce qu'il y a trois types de hackers. Les bons, les mauvais, et puis ceux qui ne savent pas où se mettre, ils sont entre les deux. Oh, tu vois, c'est compliqué. Voilà. On va aller en musique.
Oui.
Chalamar, ça se danse aussi cette pièce-là. Make that move.
Alors on y va.
Ouais.
Oh,
Chalamar, Mexad Move, voilà. C'est du classique, ça fait partie des classiques. Ça. Là, on va parler un peu du Sahel, le Sahara. Un bilan décevant pour la Grande Muraille Verte. Voilà, ouais, je sais pas, mais... Oui, ça déçoit. C'est ce rapport des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui établit un tout premier bilan pour l'ambitieux projet de la Grande Muraille Verte en Afrique sahélienne. Voilà, également au sommaire, à Madagascar, les habitants d'une région désertique utilisent en matière... de manière surprenante, les baobabs pour leur survie. Voilà. En Afrique du Sud, ce sont toutes les autres maladies qui tueront encore plus que le Covid-19 à cause du renoncement aux soins. C'est compliqué tout ça là. C'est tout un mélange, cette histoire de désertification, de reboisement de moches. C'était un grand projet, mais les gens n'ont pas pu vraiment avancer. Mais ils ont fait quelque chose quand même. En 2011, ouais, on nous racontait que les... Dans les pages de comment dirais-je, on nous disait que la Grande Muraille Verte GMV, projet de restauration du sol et d'atténuation de la désertification en plein Sahel. Ce projet entièrement africain prévoit l'implantation d'une bande de végétation sur un tracé de 7675 km, traversant d'est en ouest 12 pays. Mais le reportage... a constaté que la mise en place de dispositifs s'appuyant sur les populations locales, par exemple, était mise en avant l'utilité de à la fois écologique et économique des aspects des espèces de lignes choisies pour les villageois qui allaient en prendre soin. La sortie au début de septembre d'un rapport commandé par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est l'occasion de dresser le tout premier bilan. C'est 15 ans après son lancement. Ça fait 15 ans qu'ils ont lancé ce projet-là. Et d'après le quotidien Le Monde, d'ailleurs, qui fait part de cet article, ce bilan est modeste et résume à des maigres parcelles de quelques milliers d'hectares de reboisement, soit 4 millions d'hectares sur les 100 millions visés pour 2030. Mais mieux vaut ça que rien du tout. 4 millions d'hectares sur les 100 millions prévus pour 2030. À peine 4% de la surface projetée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les surfaces de plantation d'arbres diffèrent d'un pays à l'autre. Il semble bien que l'idéal de verdissement, de barrières vertes contre le désert s'éloigne peu à peu. À la place, de nombreux projets préfèrent se concentrer sur l'amélioration des sols et la gestion de l'eau de régions déjà productives. Les arbres ne sont pas non plus la panacée dans tous les lieux de la GMV. Selon des critiques émises par des scientifiques, un couvert herbeux peut s'avérer plus pertinent. Avec de l'herbe, au lieu de planter seulement des arbres.
Alors, il faut avoir suffisamment d'aide pour pouvoir tout faire. Les arbres sont hyper importants. Ils mettent déjà beaucoup de temps à grandir.
À grandir, oui.
À venir, à être là, à protéger, à aider. Donc, puis il faut de l'eau aussi. Donc,
oui. Surtout qu'il ne pleut pas beaucoup dans ces régions-là.
Oui. Donc il faut trouver quelque chose. Mais est-ce qu'ils bénéficient de tous ceux qui ont décidé ça? Est-ce qu'ils bénéficient de l'aide, des moyens pour faire ce qu'ils ont prévu?
Oui. Il y a des organismes, comment dirais-je, internationaux qui sont derrière ça aussi. Ce n'est pas seulement les populations locales.
D'accord.
Oui. Non, il y a le géographe Roman Mugele qui est cité par l'article du Monde qui regrette que le brochet n'ait pas pris assez en compte le pastoralisme des populations de la région. C'est d'après lui que le grand impensé de la Grande Muraille Verte dans le bulletin de l'Association des géographes français, le chercheur voit la muraille comme une utopie environnementale qui s'apparente soit à une modeste et énième opération de reboisement au Sahel, soit une plateforme institutionnelle destinée à polariser le flux de l'aide. Voilà.
Ben, chaque goutte d'eau peut se transformer en rivière, on le sait. Donc, j'en sais pas plus là-dessus.
Ce que ça
plus.
Va donner, oui. Soit encore une vieille utopie environnementale ressuscitée par une poignée de dirigeants soucieux d'améliorer leur image. Mais s'ils ont pu faire.
Si par leur image, ils sont aussi soucieux d'améliorer le pays, voilà. C'est surtout ça.
La région. Au moins 4 millions d'hectares sur les 100 millions ont été utilisés, ont été reboisés. ont été... Ah ouais, je voulais en parler, quoi. C'est parce oui. que ça, c'est depuis 15 ans que ce programme-là existe.
Ça existe, et surtout, il y a quelque chose qui se fait, donc c'est important aussi de
c'est
le savoir.
C'est important de le savoir, voilà.
Peut-être à trop petite dose pour certains, mais en tout cas, c'est en train de se faire aussi.
Oui,
donc,
vraiment,
c'est une bonne chose.
Ouais, c'est une bonne chose, parce que 4 millions d'hectares sur 100 millions, quand même, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Si rien n'avait été fait durant les 15 ans, voilà, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sous qu'ils ont reçus? Mais 4 millions sur les, ouais, sur les 100 millions d'hectares. Bon, on va parler un peu de, je vais parler un peu de Nuit d'Afrique, parce que les événements
oui, bien sûr.
En salle qui vont être annulés. Oui, il y a 8 concerts de la programmation web diffusée.
Beaucoup
là, ça
d'autres.
Va continuer. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h, là, ça va. Mais les spectacles en salle, compte tenu de la situation qu'on
Évidemment.
Vit actuellement, à partir de demain, minuit une.
C'est-à-dire à partir d'après-demain, puisque on commencera la journée de
voilà,
jeudi.
Après la nuit de vendredi à jeudi, de mercredi à jeudi, à minuit une, c'est déjà
ça.
Jeudi.
C'est
plus de bars, plus de salles de spectacle, plus rien du tout. Quoi.
Salles de cinéma, de théâtre.
Ouais. Donc le Festival Nuit d'Afrique est contraint d'annuler ses spectacles devant public du mois d'octobre à la demande de la santé publique, bien sûr. Les concerts d'Oluwa Banjo aujourd'hui 29 septembre et de Matteo mercredi 30 septembre seront présentés comme prévu au Club Balatou selon les normes sanitaires bien sûr. Ça dit demain la dernière journée de présentation et le festival continue de voyage musical live sur Facebook les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h en direct des nuits d'Afrique de Montréal dès 8. Donc ça, les spectacles en ligne vont rester tel, pas, on ne touche pas à ça. Parce que de toutes les façons, on a toujours fait comme ça depuis le début de la pandémie. Hein.
Donc, de toute façon, déjà, soyez là en ligne. C'est notre façon de montrer notre aide à tous ces spectacles, à tous ces... C'est les gens du théâtre, les gens des spectacles, partout. Voilà. Montrons-leur notre aide.
Oui.
Soutenons-les en assistant à la visio.
Oui. Oui, même que ce soit sur place ou bien en ligne, on doit toujours les supporter.
C'est vrai.
Voilà. Ne ratez pas ça. Ça, c'est très, très, très important. Bon, ben, on va aller en musique pour finir en beauté la première demi-heure de l'émission.
Oui. Ah,
je me trompe plus, là. C'est fini, là.
Avec qui?
Snoop Dogg.
Ouais.
Séduction instrumentale. Sensual Seduction.
Alors, dans la prochaine demi-heure, eh bien, on va parler livres, livres de jeunesse. Alors, restez avec nous.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Alors là, tout de suite, avant de recevoir Marika Bédrapeau, la libraire de Saint-Lambert, de la librairie, je le répète, Le Furteur, donc on va parler avec elle du dévoilement de la liste préliminaire 2021 jeunesse. Et on, pour l'instant, on va écouter Israël Proulx qui va nous chanter Le Petit Bonheur. Alors, Marika Bédrapeau, on pourrait dire que ces applaudissements, c'est pour vous. Vous arrivez. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup.
Et... bonjour, Marika.
Alors, on vous a présenté comme libraire à Saint-Lambert avec votre librairie qui s'appelle Le Furteur.
Exactement.
Et là, on va parler du dévoilement de la liste préliminaire 2021 côté jeunesse parce que vous êtes membre du comité jeunesse et c'est vous, enfin, c'est vous avec d'autres qui faites la sélection des livres. Pour le prix des libraires du Québec.
Oui, exactement. Donc, c'est tout récent. Là, la semaine passée, on a fait la sélection des listes préliminaires. Donc, on a choisi 36 livres dans 6 catégories pour le prix des libraires jeunesse.
Alors, j'ai vu que dans le prix des libraires jeunesse, il y avait le prix 0 à 5 ans, 0 à 5 ans au Québec et hors Québec, 6 à 11 ans, 11 à 17 ans, et après les bandes dessinées. Alors, on va en parler un petit peu de chaque.
On a aussi les 12-17 ans, en fait.
Les 12-17 ans, 6 et 11, oui, 12-17 ans, je ne l'ai pas dit? Si, j'ai dit 12-17 ans.
12-17 ans, Québec et hors Québec.
Et hors Québec, voilà. Alors, commençons par les plus petits.
Mais oui,
comment
donc,
ça se passe?
Avoir des suggestions, j'imagine.
Oui.
Que je vous parle de mes gros coups de cœur. Au niveau, en fait, des 0-5 ans Québec, là, j'adore Poco et le tambour de Matthew Forsythe. J'ai comme des géants. C'est vraiment un gros coup de cœur pour ce Montréalais-là. Donc, c'est très, très drôle. Est-ce que vous voulez que je vous en parle un petit peu?
Oui.
Oui, donc c'est ça. C'est l'histoire, en fait, d'une grenouille qui fait toujours un tapage fou lorsqu'elle reçoit ses jouets. Et à un moment donné, en fait, ses parents vont faire la grosse erreur, en fait, de lui offrir un tambour. Et elle va toujours taper sur son tambour et faire toujours brûler tout le monde.
Erreur de débutant quand on offre ce genre de choses aux enfants.
Et ses parents, à un moment donné, vont dire « Non, ça suffit, là, Poco, il faut que tu ailles dans la forêt. On a assez de ton tambour. » Et elle va se pratiquer. Et les animaux, en fait, de la forêt vont se joindre à elle. Et elle va devenir très, très bonne. Bref, c'est un livre, en fait, sur la persévérance, l'amitié, mais surtout la musique. C'est un gros coup de cœur pour le jury. Et les images de Matthew Forsythe sont absolument fantastiques. C'est vraiment là, à voir Poco et le tambour là, pour les 0-5 ans. Sinon, là, hors Québec, qui est comme étranger, j'aime beaucoup, beaucoup Florette de Anna Walker chez Kaleidoscope. Qui, dans le fond, Florette, c'est une enfant qui doit déménager, en fait, vers la ville et elle doit laisser, en fait, la campagne derrière elle. Sauf qu'elle s'ennuie beaucoup de la verdure et tout et elle va rechercher désespérément, là, c'est ça, des plantes et tout, jusqu'à ce qu'elle tombe chez le fleuriste. Et il y a une différence tellement intense entre le gris de la ville et la découverte de la verdure, puis sur une page complète, là, chez un fleuriste, c'est magnifique. C'est toutes des images, en fait, à l'aquarelle.
D'accord.
Vraiment, mais tout est très, très beau.
Quand vous dites hors Québec, c'est quoi? C'est dans tout le Canada? C'est en Europe? Ça vient de partout? C'est où?
Oui, exactement. Mais parfois, en fait, ce sont des éditions, en fait, étrangères.
Oui.
Et c'est souvent, en fait, parce que les auteurs ou les illustrateurs, en fait, ne sont pas québécois.
D'accord. OK. Donc, c'est en français et en anglais?
C'est juste en français.
En français, d'accord.
On a parfois des traductions, en fait. Donc, c'est toujours en français, mais c'est ça. C'est parfois des traductions, par exemple, quel est mon super pouvoir?
Ah ben ça, c'était le titre qui m'a. Moi, je les ai pas lus, hein, mais il y avait des titres qui me sautaient à l'œil. Et celui-ci, quel est mon super pouvoir, en était un.
Oui, magnifique. En fait, initialement, en fait, c'était un livre qui est canadien et qui avait été publié dans une maison d'édition autochtone. Fait, en fait, par un créateur autochtone et un auteur et un écrivain autochtone. Et c'est l'histoire, en fait, justement, d'un enfant qui va, en fait, trouver les super pouvoirs chez ses amis à chaque fois. C'est des super pouvoirs un peu trivial.
D'accord.
C'est capable de sauter le plus haut et tout. Ce que j'aime particulièrement, là, de cet album, c'est que ça ne parle pas nécessairement, en fait, du monde autochtone, mais à chaque fois, en fait, dans les noms, dans l'animal, vous allez avoir des mots autochtones, vous allez avoir aussi un décor complètement autochtone. Il n'y a pas de gazon nulle part dans cet album-là.
Ça,
donc, c'est vraiment
bien
intéressant là, pour les tout-petits. Hein.
Alors, on va passer vite fait avant qu'on parte en musique. Dans les 6 ou 11, au Québec, vous allez me dire, quel est celui qui vous a fait... quel est le titre qui vous a...
qui m'a
séduit,
là?
Oui.
C'est Enterrer la lune d'André Poulain et de Sonali Zora là, chez La Courte Échelle. C'est un sujet
c'est
un
très
peu
poétique.
Oui, exactement, qu'on parle vraiment peu. On parle vraiment peu de ce thème-là, c'est l'accès aux toilettes. C'est sous une forme, en fait, poétique. On va parler, en fait, de la difficulté en Inde pour les hommes, mais surtout les femmes, d'avoir accès à des toilettes convenables.
D'accord.
Et ça va être, en fait, le combat d'une jeune fille, Latika, pour pouvoir en installer. Illustré par Sonali Zora, là, qui est d'origine indienne, c'est vraiment plus fort quand on considère, en fait, que cette histoire-là est vraie et arrive à 4,2 milliards de personnes encore aujourd'hui de ne pas avoir accès à des toilettes. C'est quand même assez fou.
Ben oui.
Bref, c'est un livre pour se sensibiliser vraiment à une autre réalité et les images sont aussi là à couper le souffle.
D'accord. Ben, vous voulez... Oui, allez-y, parce que... allez-y.
Est-ce que vous voulez que je vous parle du 6-11 ans hors Québec?
Allez-y vite. Allez-y,
oui, c'est ça. Ben, moi, mon gros coup de cœur, là, Mary, auteur de Frankenstein, de Linda Bailey à la pastèque. On connaît tous le monde de Frankenstein,
ben, oui.
Mais est-ce qu'on connaît vraiment son autrice, Mary Shelley? Et c'est ça pourquoi, en fait, cet album-là existe. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'était le 200e anniversaire de la création de cette histoire-là.
Non, je ne savais pas.
Dans le fond, Linda Bailey va faire un livre hommage à cette créatrice-là.
Ah, d'accord.
Ben, un livre magnifique, des images un peu gothiques, presque parfaitement à l'univers de Mary Shelley, où le monstre de Frankenstein hante son autrice. C'est absolument fantastique et parfait pour l'Halloween aussi.
Ben oui, c'est vrai, ça vient juste bien. Moi, c'était avant qu'on parte en musique, j'avais retenu le titre « Nous sommes tous des féministes ». J'aimais ça aussi.
Oui, qui est vraiment, vraiment fabuleux, en fait, de Adichie, en fait. C'était un album, en fait, qui a été repris par un autre livre qu'elle avait fait pour adultes. Et ils ont repris, en fait, le texte. Ils l'ont simplifié pour les enfants et illustré. Et c'est très, très, très intéressant. Adichie, qui est une magnifique autrice, qui nous parle justement, en fait, de l'importance d'éduquer autant les garçons que les filles.
Je suis bien d'accord avec ça. Je pense que je l'offrirai à des garçons, celle-ci. Alors, pour l'instant,
magnifique.
On va écouter une chanson de Mavis Staples qui est justement en anglais, mais moi, je vais vous le traduire en français, qui s'appelle « Frères et sœurs ». Donc, ça tombe bien, parce qu'on va attaquer les 12-17 ans tout de suite après ça.
Everybody's gonna have to give some time. Gonna have to give some time. Got to give some time. Everybody's got to give some time. You got to give some time. Give some time. Everybody's gotta change some time. We got to change some time. Change sometime. Everybody's gotta change sometime. We got to change sometime. Change sometime. Everybody's gonna need some time. You gonna need some time. Need some time. Everybody's gonna have to need some time. Need some time, need some time. Everybody's got to cry sometime. Got to cry sometime. Got to cry sometime. Everybody's gonna have to cry sometime. We got to cry sometime. Sometime. Everybody's got to pray sometime. We need to pray sometime. Pray sometime. You know, everybody gotta pray sometime. We got to pray sometime. Pray sometime. Sometime. Sometime.
Comme vous l'avez entendu, c'était le titre Sometimes qui est passé. Marika, vous êtes toujours avec nous.
Bien sûr.
Donc là, dans les 12-17 ans au Québec... je vous le dirai pas tout de suite, vous allez dire d'abord votre coup de cœur. Moi, il y en a un qui m'a sauté aux yeux dans le titre. Voilà, mais j'aimerais savoir si c'est celui-là. Ouais. Ben, moi, c'était pour faire de l'ironie, enfin, pas de l'ironie, mais faire un clin d'œil à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un parfum de fausses nouvelles.
Ah, ben oui, qui est tellement pertinent aussi de Pierre-Alexandre Bonin chez Bayard, qui nous parle, en fait, de justement, l'histoire, en fait, d'un jeune garçon qui est très impliqué, en fait, au journal étudiant Et personne, en fait, lit ses critiques de journal ou ses chroniques de journal. Donc, il va se dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse à des ragots? Et il va en inventer, en fait, il va créer un canal YouTube pour les fausses nouvelles de l'école et ça va mal tourner. C'est très, très drôle. C'est parfait par rapport à aujourd'hui.
Alors oui, je trouve aussi. Et quel avait été votre coup de cœur dans celui-ci?
Mon gros coup de cœur, c'est Ma vie de gâteau sec d'Elisabeth Paris-Lessard chez les Malins. Quelque chose de très, très populaire en ce moment. Parfois, là, on va parler, c'est un roman là, vraiment pour les jeunes filles qui va parler en fait d'angoisse, de santé mentale, surtout dans le contexte actuel aujourd'hui. Oui. C'est l'histoire en fait de Louane qui est dans une école de danse. Et elle se sent un peu à la traîne avec toutes les filles assez populaires, des grandes danseuses avec des grands talents. Et lors du spectacle du jour J, Louane va faire une crise d'angoisse devant tout le monde. Et c'est là, en fait, qu'elle va avoir l'impression que sa vie va perdre tout son sens. Mais heureusement, d'autres choses vont arriver et tout va bien finir.
D'accord.
C'est vraiment un livre qui se lit facilement, qui raconte l'amitié, les défis d'adolescence qui peuvent être très nombreux.
Oh là là!
Et
oui.
On retrouve d'ailleurs le tome 3 qui vient tout juste de sortir en librairie. Donc nous, on a nominé le tome 1, mais ils sont allés assez rapidement. Donc le tome 2 est sorti et le tome 3 vient tout juste de sortir en librairie.
D'accord. Alors avant qu'on passe aux bandes dessinées, parce que ça m'intéresse, j'ai eu un chroniqueur à un moment donné qui m'a donné le goût des bandes dessinées, voyez-vous. Mais avant qu'on y revienne, 12-17 hors Québec, votre coup de cœur?
Mon coup de cœur hors Québec, c'est Akata Witch de Neddy Okafor chez École et Loisirs. On fait un peu de pouce sur Adichie, que nous sommes toutes féministes, là, que vous aviez remarqué. Là. On est encore au Nigeria. C'est un grand coup de cœur là, pour ce premier livre d'une série. On est au cœur, en fait, du Nigeria où Sonny, qui est albinos, est vraiment souvent victime d'intimidation. Et rapidement, en fait, elle va réaliser, en fait, qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle fait partie, en fait, de ce groupe des léopards où toutes les faiblesses, en fait, qu'on vit dans le monde humain sont des forces dans les léopards. Donc, Sonny, qui est albinos, va tirer, en fait, ses pouvoirs magiques dans le soleil, par exemple. Son ami aussi, qui est dyslexique dans le monde humain, a le pouvoir magique de défaire les sorts qui sont trop compliqués. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant, ce livre-là. Un livre magique qui s'imprègne complètement, en fait, de la mythologie nigériane. C'est un livre complètement fascinant. Et on m'a dit, là, tout récemment, qu'un tome 2 allait sortir incessamment. Oui. Là, donc, je suis très excitée. Ben,
vous savez quoi? Moi, j'ai envie de dire que, finalement, toutes nos différences, qu'on prend des moments en étant... En étant traîné par le bas, on ferait bien mieux de s'en rendre compte qu'on peut s'en servir pour le côté magique de l'aventure.
Exactement,
aussi.
Exactement.
Alors, rentrons maintenant dans les bandes dessinées. Bandes dessinées du Québec, bien sûr. Moi, il y a un titre qui m'a fait sourire tout de suite, puisqu'on en parle des enfants comme ça. L'enfant allergique aux écrans.
Évidemment, évidemment. Un très, très beau livre aussi. Je vous dirais quand même qu'au niveau bande dessinée, c'est pas le contrat, en fait, qu'on a pour le jury, mais je peux quand même vous en parler parce que j'en ai lu pas mal.
D'accord.
Donc, moi, celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est Mimose et Sam, qui est le tome 3, en fait, d'une série qui est très, très drôle. C'est des créatures, en fait, du jardin qui, à chaque fois, doivent faire une certaine enquête. Et là, sur le coup, ils sont... c'est parfaitement le temps en ce moment. Ils sont en mission hibernation.
Oui.
Donc, il faut qu'ils trouvent, en fait, un moyen pour essayer d'hiberner. Donc, c'est Mimose et Sam de Caton chez Comme des géants.
D'accord.
Et sinon, là, au niveau hors Québec, en bande dessinée, j'aime beaucoup Sacrée sorcière de Pénélope Agieux, qui est inspirée du roman, peut-être que vous connaissez, là, de Roald Dahl, Le Sacrée sorcière. Et c'est habilement illustré là, par Pénélope Agieux. Très, très drôle. On retrouve là, les sorcières avec les doigts crochus et tout. Et vraiment là, un très beau concept de bande dessinée et un très beau livre.
Si on savait qu'aujourd'hui, elles n'ont plus les doigts crochus. Mais il existe encore des blanches et des moins. Donc,
Fulgence... Elles ont toutes les formes,
oui,
et toutes les capacités.
Fulgence, c'est une question pour vous.
Marika?
Oui?
Rebonjour. Quels sont vos critères de sélection? pour les livres, les livres, les prix.
De sélection, oui. On essaie en fait de choisir en fait les livres les plus marquants en fait de l'année. Cette année, ça a été quand même assez difficile parce que on avait la pandémie, donc les publications étaient assez rares. Et pourtant, on est arrivé avec une grande diversité dans les thèmes, dans les auteurs, dans les maisons d'édition. Je dirais que mon critère principal, c'est vraiment d'avoir une super belle diversité, d'avoir des livres différents pour qu'on puisse choisir en fait le meilleur livre dans tout ce qui se crée en fait au Québec et hors le Québec.
Bien sûr, puis. Oh, pardon.
Oh ouais, génial. Ouais, merci.
Et puis pour, faut aussi qu'on dise avant qu'on arrive complètement à la fin de l'entrevue que pour plus de détails, on trouve ça, on peut se renseigner au prixdeslibraires.qc.ca.
Exactement. Vous allez avoir la liste complète en fait des livres qu'on a nominés en fait pour la liste préliminaire. Et incessamment, là, on va vous déterminer en fait la liste plus petite là, pour les 18 titres pour lesquels on va voter.
D'accord. Et pour terminer, ben, quand même l'annoncer que les librairies indépendantes ben, affichent une avance sur les ventes grâce aux Québécoises et aux Québécois qui sont beaucoup donnés pour acheter local, pour se mettre peut-être plus à la lecture.
Ben oui, heureusement. Puis on l'encourage encore aussi là, aujourd'hui, là, plus que jamais face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous pouvez continuer à venir dans les librairies indépendantes. Ça nous fait plaisir de vous servir.
Est-ce que vous, dernière petite question, est-ce que vous, dans votre librairie, vous faites ça aux gens qui poussent la porte? Vous devenez passionnante et vous leur racontez l'histoire?
Je fais mon possible.
Pour les aider à choisir tout ça?
Je fais mon possible. J'essaie d'être le plus passionnante possible. J'essaie d'être le plus... Je pense qu'il n'y a pas de sous-livres. Je pense que tous les livres se valent. J'essaie d'écouter le plus possible les personnes qui viennent me voir. Puis j'essaie de le faire avec le plus de passion que j'ai.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Simplement, là, c'est au mois de novembre qu'il va y avoir le dévoilement de ceux qui ont été choisis, c'est ça?
Exactement.
Et après, c'est en 2021, en février, c'est ça?
Exactement. Et là, c'est tous les libraires, en fait, du Québec qui vont choisir les grands gagnants du prix des libraires dans chaque catégorie.
Bon, et vous êtes la librairie Le Furteur à Saint-Lambert?
Exactement.
Si jamais on veut venir vous voir pour vous entendre raconter. Eh bien, Marika, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer, au moins au téléphone.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Papa, Agal, Abeille, Ototodo.
gueule, abeille, autodrome.
On vient d'entendre le groupe Zenobia, Funky Egal. Par contre, ce sont deux membres du groupe électro Zenobia qui veulent révolutionner la pop arabe. Il paraît que leurs concerts sont hypnotiques. D'ailleurs, en dansant là-dessus, là, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter. Hypnotique. Parce qu'ils sont pleins d'énergie, ils ont le sourire contagieux. Puis c'est vraiment... Une musique avec un rythme lancinant, ça ne s'arrête pas.
On aimerait bien les avoir ici à Montréal. Hein.
Oui, ça serait bien. Voilà. Donc, c'était juste pour faire cette annonce-là. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. Fulgence, nous arrivons vers la fin de cette émission.
Oui, rapidement, je voulais rappeler un peu le nom des artistes qui vont participer à la programmation web diffusée du festival Nuit d'Afrique. Matteo, Wesley, Nax Bitola, Ilham, Bantu Salsa, Ayrad, Daka Dambélé et Gypsy Cumbia Orchestra. Ça va être les jeudis 8, 15, 20 et 29 octobre dès 20h. En ligne, bien sûr. Voilà, ne ratez pas, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut rater quand on dit.
Non, sur la page Facebook. Ça ne se rate pas, il faut vraiment aller les écouter parce que. À défaut de danser devant eux, on va danser chez nous.
Oui. Non, c'est. Je pense bien que aujourd'hui, technologie permet quand même à beaucoup d'artistes de continuer à se faire voir, malgré la pandémie qui nous empêche maintenant d'aller encore.
Heureusement, ça fait partie de la créativité dans les salles de spectacle. Donc, on remercie Marika Bédrapeau, qui est libraire, je le répète, à Saint-Lambert. Donc, sa librairie s'appelle Le Furteur.
Oui, et nos auditeurs nous suivent.
Maurice Bolduc.
Maurice, merci à toi. À toi, on se voit demain.
Eh bien, si je le veux bien, mon Dieu, je réfléchis. Allez, oui. J'ai des idées que c'était bon.
Tu ne me tireras pas les cordes. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée à vous tous, à demain.
Bye.